Voilà, bonjour à tous. Vous voyez que je suis en short. Je ne sais pas si je suis dans le déni. C'est le Parisien qui voulait à tout prix trouver du soleil dans le sud et qui n'en a pas, mais qui se met quand même en short. En tout cas, voilà, même si le soleil n'est pas là, nous, on est encore très contents d'être au milieu de vous. Je vous l'ai dit hier, mais vraiment, c'est un plaisir d'échanger, d'apprendre à vous connaître. On a de la joie avec Nolina d'être là. Donc, hier matin... Tout mon propos, ça a été de nous exhorter en ce début d'année à ne pas nous tromper d'objectif, nous rappeler que la véritable mesure de notre réussite cette année, ça va être l'amour. L'amour que je donne, l'amour qui grandit dans mon cœur. Simplement sur ça, Bernard de Clairvaux, donc, c'est un théologien du Moyen-Âge, dans son traité de l'amour de Dieu, il pose la question à un moment donné, il dit « Pourquoi aimer Dieu ?» et « Comment aimer Dieu ?» et il dit quelque chose que je trouve vraiment beau, il dit « Vous voulez que je vous dise pourquoi et comment on doit aimer Dieu ? » Je réponds brièvement. La raison pour laquelle on aime Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure. La mesure de notre amour pour Dieu, c'est d'aimer Dieu sans mesure. Et je trouve ça magnifiquement dit. Et c'est exactement ce que nous dit le plus grand commandement, hein, d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée. Un amour qui est appelé à croître infiniment. Ça va au niveau du son ? 1, 2, 1, 2. Parce que là, ça... Ça marche que là ? Si, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Bon, il y a une enceinte qui a... Est-ce que ça marche ? Merci, merci beaucoup. Donc voilà, la mesure de notre amour pour Dieu, c'est d'aimer Dieu sans mesure. Cet amour qui est appelé à croître de manière infinie. Cette croissance, je vous le rappelle, elle se fait dans le quotidien, par des petits actes qu'on pose, par des disciplines qu'on pratique, comme la solitude avec le Seigneur, le jeûne, la prière, la méditation des Écritures, le service, la vie en église avec les frères et sœurs. Ces choses, elles ne sont pas spectaculaires. Hein. Franchement, ça ne paraît pas spectaculaire. Et pourtant, ça crée quelque chose en nous. C'est des petits actes qui nous transforment, qui nous changent. Et vous savez, et après je vais passer sur ce que j'ai à cœur de vous donner ce matin, mais simplement, il y a un principe dans la parole de Dieu, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Hein, ça revient souvent, on récolte ce qu'on sème. La vérité, c'est que ce que je sème dans la vingtaine, je vais le récolter dans la trentaine. Ce que je sème dans la trentaine, je vais le récolter dans la quarantaine. Ce que je sème dans la quarantaine, je vais le récolter dans la cinquantaine. Et ainsi de suite. Et aucun de nous, en fait, on se réveille comme ça à 50 ans, en étant un disciple accompli, en étant un disciple qui aime le Seigneur, qui aime les autres, sans avoir auparavant, dans le quotidien, mis en place des petites choses, des petits éléments, des petites disciplines, des PPPP, qui viennent nous changer, qui viennent nous transformer. Donc voilà, je vous ai parlé d'amour hier. Ce matin, je vais vous parler de joie. Alors, j'ai beaucoup hésité avec un texte dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Rois. Mais hier, ce que tu as dit, Farid, il y a des choses... que tu as appuyé, où je me suis dit, bon, ça allait peut-être faire un peu doublon. Et j'ai à cœur de vous transmettre des choses sur la joie ce matin, parce qu'il me semble aussi qu'il y a une difficulté dans l'Église, dans notre société, d'atteindre la joie. C'est quelque chose qui est quand même assez présent. Bon nombre de chrétiens, bon nombre d'entre nous, on a du mal à être joyeux. On a du mal à être joyeux. Et pour ce qui est de notre société actuelle, je vais prendre le temps d'en parler ce matin. Elle sait faire quelque chose, elle sait multiplier les occasions de plaisir. Ça, elle sait très bien le faire. Par contre, elle a du mal à nous procurer la joie. Généralement, l'argent, le confort, la technologie, la sécurité matérielle ne manquent pas. Et pourtant, hein, l'ennui, la morosité, la tristesse sont très présentes chez les Français. Selon les études, ils rient aujourd'hui 5 minutes par jour. C'est 4 fois moins qu'il y a 50 ans. Alors qu'il y a la Bible qui se met en route. Donc voilà, les Français aujourd'hui rient 4 fois moins qu'il y a 50 ans, alors qu'on a toutes ces technologies qui sont là, on a tout ce confort qui est là aujourd'hui. Donc avant toute chose, je vais commencer avec la parole de Dieu. Quelques versets, Philippiens 4, verset 4, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et au cas où on n'est pas bien compris, hein, Paul le répète, oui, je le répète, soyez dans la joie. Toujours L'apôtre Paul, hein, en 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il réitère cette exhortation. Il écrit aux chrétiens de Thessalonique, « Soyez toujours dans la joie. » Je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours dans la joie. La première réaction qu'on a, je pense, quand on lit ça, c'est qu'on est quand même un peu sceptique. Hein, on se dit, ça doit être un idéal. Paul, ici, il nous dit ça, mais il sait bien qu'on ne sera pas toujours heureux. Il sait bien qu'on ne se réjouira pas sans cesse dans le Seigneur, que c'est impossible ce qu'il nous demande. Il nous demande un commandement qu'on va avoir du mal à accomplir, c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre. Voilà, fin de l'histoire, en gros. Et effectivement, c'est impossible, c'est vraiment impossible d'être toujours jovial. Mais ce n'est pas ça qui nous est commandé dans ce verset. On ne vise pas le jovialisme. On ne vise pas un état ou une humeur ou un état émotionnel exaltant. Ce n'est pas ça qui est commandé dans ces passages. C'est autre chose que la joie. C'est autre chose que ça, pardon. Et ce n'est pas non plus l'optimisme que Paul nous recommande, comme s'il fallait toujours prendre la vie du bon côté, voir le verre à moitié plein. Ce n'est pas ça. Ce qui nous est commandé, c'est la joie. La joie. Et la joie, il y a vraiment une perspective unique de la Bible sur la joie, parce que déjà, elle nous apprend que la joie peut coexister avec le chagrin. Dans la Bible, la joie, elle est possible sans que l'on ignore, sans que l'on cherche à supprimer tous les chagrins qui peuvent être là, tous les chagrins qui peuvent être les nôtres. Et je dirais même, la joie chrétienne est compatible avec les chagrins, avec les soucis. La joie ne se définit pas par cette absence de chagrin ou de soucis dans la Bible. La preuve de ça, l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 6, verset 10, il dit « On nous regarde comme étant attristés, parce que la condition qui vit à ce moment-là est vraiment difficile, et pourtant nous sommes toujours joyeux. » Attristés et pourtant joyeux. Alors ce matin, on va parler du bonheur, on va parler de la joie, on va parler de la vraie joie. Et si on est un peu confus ce matin, parfois sur ce sujet, c'est, je suspecte qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, c'est qu'en fait on confond la joie et le plaisir immédiat. On confond les deux. On croit que la joie, c'est le plaisir immédiat. La vraie joie, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et je vais essayer de bien me faire comprendre durant tout ce message, le plaisir n'est pas mauvais en soi. Il n'est pas problématique en soi. Mais si le plaisir se caractérise par quelque chose d'immédiat, hein, qui dure peu, la joie, elle est durable. Elle va venir nous toucher plus profondément. Parce qu'en fait, elle a cette faculté de nous décentrer de nous-mêmes. Donc je vais parler de tout ça ce matin. Je vous annonce par avance en fait la thèse que je vais développer là dans les minutes qui viennent. Et c'est Pascalide encore qui va être celui sur lequel je m'appuie ce matin. Et cette thèse qui sort, il la sort de la Bible, des sciences humaines. Et voilà ce qu'il dit, je trouve qu'il résume assez bien l'idée que je veux faire passer. C'est que l'homme moderne est un homo tristus, un homme triste, un homme morose, hein, parce qu'il a oublié la voie par excellence, décidément, voilà. C'est ça qui nous suit ce week-end, la voie par excellence, pour reprendre ce que dit Paul hein, en 1 Corinthiens 13, de la joie et du bonheur, la gratitude. Gratitude envers le Seigneur, gratitude envers les autres. Donc voilà, encore une fois, Pascalide, donc je vous donne un autre livre si vous voulez le lire. Je vous rappelle, il est médecin, écrivain, philosophe, auteur, prêtre. Et donc, Puissance de la gratitude vers la vraie joie, il a écrit ce livre en 2017. C'est un livre que j'ai pas mal potassé, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, et il y a des choses que j'apprécie chez lui et que j'apprécie transmettre, du coup, aussi. Donc, si la gratitude, hein, c'est vraiment la voie par excellence pour cheminer vers la joie, faut avouer que c'est pas ce qu'on pense naturellement ou spontanément dans notre société. Ce que Pascal dit ici, peut-être ça nous paraît pas évident au premier abord. Et pour ça, en fait, c'est assez normal, c'est parce que notre société, les médias, enfin, tout ce qu'on vit nous bombarde sans cesse avec d'autres idées. Il nous propose une autre voie pour atteindre la joie, le bonheur, et cette voie, c'est celle de l'hyperconsommation. Donc je vais vous dire quelques mots sur ça. La fausse voie vers la joie. L'hyperconsommation. L'hyperconsommation. Il y a les spécialistes de notre temps qui nous disent l'une des marques les plus importantes de notre société aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une société non seulement, enfin pas seulement même, de consommation, mais une société d'hyperconsommation. Le modèle de joie, de bonheur que nous propose l'Occident hein, depuis quelques dizaines d'années, c'est l'hyperconsommation. Et c'est un modèle qui a vraiment une influence sur nous. On ne s'en rend pas compte, mais qu'on le veuille ou non, ça a une influence. Et ce qui caractérise ce modèle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on confond la joie et le plaisir. La joie, le bonheur deviennent équivalents du plaisir immédiat. Et ce plaisir immédiat, en fait, c'est l'hyperconsommation. Donc quand je parle d'hyperconsommation, à quoi je fais référence? Qu'est-ce que j'ai en tête derrière? En fait, aujourd'hui, Et franchement, on n'avait jamais vu ça, nulle part ailleurs dans toute l'histoire de l'humanité, dans aucune autre société, vous trouvez ça. Absolument tout est objet de consommation. Et tout objet, toute activité, toute personne est perçue comme un produit de consommation et il est réduit à la quantité d'excitation qu'il produit en moi. C'est ça qui nous est proposé. Je vous décris une vie banale dans nos vies d'hyper-consommateurs. Vous êtes le midi, à la pause au boulot, voilà, imaginons, vous descendez en bas à la cafette pour faire votre pause de midi, le déjeuner, vous prenez un bon plat, vous le faites chauffer au micro-ondes, un soda bien frais, voilà, je ne sais pas ce que vous aimez en dessert, un super cookie au chocolat, on va dire, vous prenez tout ça, vous asseyez à table, vous vous posez, vous mettez l'ordinateur, vous ouvrez, vous regardez une vidéo, vous commencez à zapper là, sur YouTube, regardez des vidéos avec voilà, le casque sur les oreilles. Et voilà, à l'heure de la fin de la pause, clac, on ferme l'ordi, on va jeter la bouteille de soda vide et puis tout ce qu'on n'a pas mangé, l'emballage du plat, etc., etc. Donc là, en fait, on peut parler d'hyperconsommation. Parce que pendant que je mange, il y a comme une saturation en fait, hein, de tous les orifices. J'en ai plein la bouche avec mon repas, j'en ai plein les yeux avec mon écran, j'en ai plein les oreilles avec ce que j'entends. Il y a une consommation qui est hyper forte, qui est là. Et en fait, ce qui est aussi typique, hein, de l'attitude hyperconsommatrice, c'est je prends, je consomme, je jette. Je prends, je consomme, je jette. Et donc ça se retrouve, hein, non seulement dans notre façon de nous alimenter, où on prend, on consomme, on jette, mais ce virus de l'hyperconsommation, il contamine aussi le domaine de nos relations. Hein, aujourd'hui, on consomme de l'amitié, on consomme de la rencontre, on consomme du sexe, on prend, on consomme, on jette l'autre. Comme un Kleenex. J'arrête ma relation amicale ou ma relation conjugale quand elle ne me procure plus de plaisir. Et en faisant ça, en fait, on réduit l'autre à la quantité d'excitation qu'il produit en moi. C'est comme ça qu'on voit les objets. Ils ont de la valeur en fonction de la quantité d'excitation qu'ils vont créer chez nous. L'hyperconsommateur garde en option, jusqu'au dernier moment, trois possibilités de sortie ou de soirée le week-end et il décide au dernier moment à laquelle il souhaite aller. On consomme l'amitié, la nourriture, le sexe, mais aussi son corps. Je vous donne un exemple. En 2005, aux États-Unis, un jeune devait payer ses études. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu son front pour 37 000 dollars. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il devait porter, en échange de cet argent, il devait porter sur son front une publicité pour un médicament permettant de mieux dormir. Donc il a fait ça, il a reçu 37 000 dollars. Donc je n'évalue pas moralement l'acte de cette personne, ce n'est pas ça qui m'intéresse, il est conduit pas par la cupidité, mais parce qu'il doit payer ses études d'ailleurs, en l'occurrence. Mais simplement, ce que je note, hein, c'est qu'il a consommé son corps pour gagner de l'argent. Son corps, c'est devenu une marchandise, comme une autre. Et puis bien sûr, imaginons pas que cette atmosphère, hein, d'hyperconsommation, elle n'impacte pas notre vie spirituelle. On est tenté de zapper d'église en église, de groupe de prière en groupe de prière. On pèse le pour et le contre, hein, les avantages, les inconvénients, selon les lois du marché, et on peut être tenté de changer de communauté en fonction du plaisir que ça va nous apporter. Ouais, je ne dis pas ça pour vous rester là, hein. Mais voilà, c'est une tendance qui peut être là. C'est une tendance qui peut être là. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais à la fac, hein, un de mes profs nous racontait qu'un jour, il se rappelle avoir vu quelqu'un qui était là au fond de l'église, pendant le moment de prière, d'adoration, puis en fait il avait un casque sur les oreilles, du coup il est un peu étonné, il va le voir, il lui demande « mais pourquoi vous êtes là ? Enfin, qu'est-ce que vous faites là ?» Et la personne en fait lui a répondu « mais vous vous rendez pas compte, ce lieu dans lequel je suis c'est un lieu de concentration d'énergie qui est extraordinaire. » Et en fait cette personne elle venait à l'église pour capter de l'énergie, pour recevoir de l'énergie pour elle, alors que le culte ou la prière c'est justement ce qui est censé un peu nous décentrer de nous-mêmes pour aller vers le Seigneur. Donc on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on agit comme ça, hein ? Pourquoi l'hyperconsommation, c'est un tel succès ? Mais en fait, parce qu'elle nous promet quelque chose qui est, au demeurant, très sympathique. C'est le maximum de plaisir. J'ai pas eu beaucoup de difficultés, hein, à aller voir sur Internet et à trouver un bon nombre de publicités où cette promesse du plaisir allait faite. Donc quelques-unes. Lion de Nestlé, le plaisir sauvage. Voilà, pour ceux qui sont plus vieux, comme moi. Avant, le slogan, c'était « Lion pour rugir de plaisir ». Peut-être vous en rappelez. Pour les voitures, pour une Renault Mégane, soyez raisonnable, faites-vous plaisir. Au cinéma, UGC, plus de passion, plus d'émotion. Et puis pour revenir à l'alimentation, pour un camembert président, le plaisir, c'est important. Et oui, c'est important. Il y a tellement d'autres exemples, mais vous voyez la logique. Hein. C'est qu'aujourd'hui, c'est le plaisir qui est la norme de tous nos choix. C'est la mesure de tous nos choix. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sente ou pas, on est dans un monde qui est marqué par l'influence, la prépondérance de l'amusement, du fun, du cool, du plaisir. Et encore une fois, le fun, le cool, le plaisir n'est pas mauvais en soi. Je ne veux pas faire le rabat-joie, certainement pas. Mais le problème, hein, c'est qu'en tant qu'hyper-consommateur, on est conditionné à chercher en permanence ce qui nous contente, ce qui nous fait du bien. Et ce qui est paradoxal, hein, c'est que plus je me centre sur mon plaisir, plus il s'évanouit et moins il m'épanouit. Je vous redis ça, plus je me centre sur mon plaisir, plus il s'évanouit et moins il m'épanouit. Dans une étude qui a été faite à Oxford en Angleterre, j'ai trouvé ça intéressant, on a fait écouter en fait à deux groupes de personnes un morceau de musique. Un morceau de musique très, très sympa, très agréable. Et ce que les personnes du premier groupe devaient faire, c'était simplement écouter le morceau. Voilà, écouter le morceau de musique. Et l'autre groupe, on leur a demandé, écoutez la musique, mais votre but, c'est que vous soyez le plus heureux possible en écoutant cette musique, que vous y trouviez du plaisir. Donc voilà, tout était bien organisé, les personnes avaient des échelles entre 0 et 10 pour quantifier le degré de bonheur. Résultat de l'étude, eh ben, ceux qui écoutaient la musique en vue d'être heureux étaient moins heureux. Ce n'était pas forcément le résultat attendu, mais les chercheurs de cette étude ont conclu que rechercher le plaisir diminue le plaisir ressenti. C'est paradoxal, mais rechercher notre plaisir diminue le plaisir qu'on éprouve. Et c'est ça en fait que nous laisse l'hyperconsommation, hein. C'est un sentiment frustrant souvent, où en plus, à force de jouir des plaisirs, on devient esclave, on devient dépendant. Pascal Hyde écrit dans le livre, hein, « La consommation donne du plaisir, mais un plaisir qui s'affaisse vite, qui satisfait de moins en moins, ne comble pas et surtout exige sa répétition au risque de l'addiction. » Et effectivement, avec l'hyperconsommation, on passe au carreau de chocolat le premier jusqu'au suivant, hein, à la série Netflix suivant, aux vacances dans une destination paradisiaque suivante, au film pornographique suivant, et on répète ça encore et encore. On n'en a jamais assez, et il y a une dépendance qui est là. Et ce qui est remarquable, c'est que dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains, ils ont toujours souffert de dépendance à des quantités de choses, mais notre société, c'est la seule qui a été en mesure de créer des addictions nouvelles aux achats, au sport, au travail, à la musique, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, et il y en aura encore d'autres à donner. Donc finalement, la voie de l'hyperconsommation, en fait, c'est une impasse pour parvenir à la joie. C'est une chimère, c'est un leurre. Elle nous conduit plutôt à la dépendance. La dépendance, c'est une pathologie du plaisir. Et cette dépendance, elle crée une perte de liberté, une culpabilité, un désespoir qui peuvent être intenses, hein, parfois. Donc c'est là où la tyrannie du plaisir nous mène. Elle nous conduit là. Et encore une fois, le plaisir n'est pas mauvais en soi. Mais ma critique, hein, elle porte sur le plaisir tel qu'il est vécu, tel qu'il est idolâtré par l'homme et la femme de l'hyperconsommation. C'est ce plaisir qui nous mène à la frustration, à la dépendance, à une vie morose parce que dénuée de sens. Ça va jusque-là ? Vous voyez ? Donc, j'aimerais qu'on s'attarde maintenant, et après on fait un peu un constat, hein, on voit un peu comment les choses sont dans notre société, comment elles peuvent nous influencer. Donc j'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur la vraie voie de la joie, la gratitude. La gratitude. Donc, je vous avoue, enfin, de manière honnête, il n'y a pas de verset dans la Bible, il me semble, après peut-être vous en aurez en tête, et si c'est le cas, bah, venez me voir, mais il n'y a pas de verset, il me semble, qui font un lien direct, hein, entre la gratitude et la joie. Il y a Paul qui dit bien en 1 Thessaloniciens 5,16, « Soyez toujours joyeux », et c'est vrai que dans la foulée, il ajoute « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». On peut se dire peut-être que ces deux choses, effectivement, ne sont pas si étrangères l'une à l'autre. C'est vrai, après, je ne suis pas sûr que c'est forcément ce que Paul voulait faire, de les lier. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment exhorté, hein, très régulièrement à la reconnaissance dans la Bible. Or, on sait que Dieu ne nous demande jamais des choses qui nous détruisent, qui nous font du mal, mais au contraire, c'est des choses qui nous construisent. Dieu fait toujours tout, je pense que c'est bien de le rappeler, Dieu fait toujours tout pour sa gloire et pour le bonheur de ses enfants, de ses créatures. C'est important, c'est les deux. Hein, c'est pas l'un ou l'autre, c'est, parfois on fait un peu jouer l'un contre l'autre, la gloire de Dieu ou mon bonheur. En fait, le Seigneur, il a un plan de bonheur pour nous, mais il fait tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire et tout pour notre joie. Et il nous laisse des paroles, des principes dans sa parole, hein, pour notre édification, pour notre bien, pour notre bonheur, parce qu'il est notre Père qui aime ses enfants, parce qu'il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et donc, pour aller peut-être un peu plus loin, ce qu'on peut dire, c'est que dans la Bible, il me semble, il y a un principe qui revient. Ce principe, c'est que tout ce qui sort de Dieu est appelé à revenir vers lui et en lui. Quelques versets. En Ecclésias 12, verset 7, par exemple, c'est dit « À la mort de l'homme, le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. Hein, » Dieu fait don de la vie à l'homme, et à sa mort, cette vie, ce souffle, retourne au Seigneur qui l'avait donné. Toujours dans l'Ancien Testament, Ésaïe 55, on lit « La pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais à moi, vers moi, à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Ésaïe 55. Ce qui sort de Dieu, hein, autrement dit, ce qui sort de Dieu, en l'occurrence ici la parole, est appelé à revenir vers lui. Et même si vous réfléchissez au salut, par quoi est-ce qu'on est sauvé ? On est sauvé par le Christ, hein, par son incarnation, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection et son ascension. Son ascension. Parfois, on oublie l'ascension, mais c'est très important. Or, par l'ascension, le Fils retourne au Père. Hein. Jean 13, verset 3. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu, qu'il allait retourner auprès de lui. Le Fils est venu par l'incarnation, il retourne auprès du Père, par l'ascension. Peut-être pour vous donner un schéma de ce que je veux vous transmettre, c'est qu'on a ça en fait, on a ce schéma-là. Qu'est-ce qui sort de Dieu dans la Bible ? En fait, c'est la grâce, c'est les grâces, c'est les dons. Hein, en Jacques 1, 17, il nous est dit que tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. Nous vient du Père des Lumières. Le Seigneur fait des dons, il nous accorde sa grâce. Et en fait, dans l'Écriture, tout est appelé à voir comme un mouvement de retour vers le Seigneur. Et dans les Écritures, ça se fait par la gratitude, par la louange, par l'action de grâce. C'est ce qui se passe, par exemple, avec Marie au début de l'Évangile de Luc. Elle reçoit le Christ dans sa chair. Elle répond par le Magnificat en disant « Mon âme chante la grandeur du Seigneur. Mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Le Seigneur est à l'initiative du don, Marie répond par la gratitude. Et c'est pour ça que la louange, elle est omniprésente dans l'Écriture. Elle est omniprésente, elle caractérise en fait cette attitude fondamentale de l'homme devant Dieu. L'homme est censé faire ça, être réceptif aux dons du Seigneur, les recevoir, et ensuite répondre par la louange. Et c'est pas pour rien que dans la Bible, on a tout un livre, hein, les psaumes, c'est un livre de louange. Qui se termine d'ailleurs par la louange, hein, psaume 150, verset 6, « Que tout être vivant chante louange au Seigneur. » Et donc, l'œuvre de l'homme, on pourrait dire, hein, c'est transformer en action de grâce ce qu'il a reçu comme grâce. C'est pour ça d'ailleurs, hein, qu'il est dit que, de Dieu qu'il est l'alpha et l'oméga. Il y a tout qui sort de lui, et il y a tout qui revient à lui. C'est comme ça que les choses sont censées être dans le monde de Dieu. Et peut-être vous pouvez voir l'hyperconsommation, en fait, elle ne peut pas produire la joie véritable parce qu'elle nous renferme sur nous-mêmes. Il n'y a pas de retour vers Dieu avec l'hyperconsommation, ça s'arrête là. Dieu donne à l'homme et hop, on se replie sur nous-mêmes. Ce que dit André Comte-Sponville, en fait, dans le petit traité des grandes vertus, voilà ce qu'il dit. Il dit « La gratitude est joie. Elle est joie sur joie. Elle est surabondance de joie commune, de joie réciproque, de joie partagée. Le Seigneur nous fait des dons. On reçoit ça comme une joie, un cadeau. On rend ensuite cette joie-là au Seigneur. Et on rend dans un cercle vertueux. Et par contre, ce qu'il dit, c'est que la gratitude, quant à elle, n'est pas incapacité à recevoir, mais incapacité à rendre, sous forme de joie, un peu de la joie reçue ou ressentie. C'est pourquoi l'ingratitude est si fréquente. Nous absorbons la joie, comme d'autres la lumière, trou noir de l'égoïsme. C'est cette idée-là. On a une incapacité, quand on a cette incapacité à discerner ce qui m'est donné, hein, je prends, je consomme, et il y a peu de joie au final. Peu de joie, et presque aucune gratitude. Un jour, pour vous donner un exemple aussi intéressant, un jour, un abbé était en fonction depuis des décennies dans son monastère. Et il a une intuition, c'était un gars assez observateur. Et il a l'impression de remarquer en fait qu'au fur et à mesure que les années passent, il dit mais c'est intéressant, les moines qui sont sous ma responsabilité et qui vivent le plus longtemps en fait au sein de ma communauté, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est ceux qui dans le quotidien ont de la gratitude. Et en fait, il va vouloir vérifier cette intuition. Et il y a une étude qui va être faite dans ce monastère à la fin des années 80. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce monastère, tous les frères qui rentraient devaient écrire une lettre quand ils rentrent dans le monastère. Ils en écrivaient une autre à 40 ans et une autre à 70 ans. Et on avait aussi les dossiers médicaux de tous ces frères pour ces mêmes âges. Et ce que les scientifiques ont fait, en fait, c'est qu'ils ont repéré dans les lettres écrites tous les mots qui manifestaient l'émerveillement, la reconnaissance, la gratitude. Et ils ont corrélé ces données avec la santé et la longévité des frères. Et le résultat de l'étude, ça a été de montrer que plus il y a de termes qui expriment l'émerveillement ou la gratitude, plus la vie croît en qualité et en quantité. Plus la moitié des frères qui avaient écrit le plus grand nombre de mots exprimant la gratitude étaient encore en vie à 94 ans, contre 10% seulement pour ceux qui en avaient écrit peu. Et bon, on a évalué un gain moyen de vie à 7 ans. Et cette étude, elle a été refaite plusieurs fois et reconfirmée. Voilà. Mais c'est pour vous dire, il y a quelque chose qui se passe avec la gratitude. Alors, on ne fait pas la gratitude pour se sentir bien ou heureux. Hein. Enfin, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, soyez reconnaissants et puis tout va bien. C'est pas ça. Mais si on est vraiment reconnaissant dans ce cas-là. C'est une reconnaissance qui doit être sincère. Sincère. Et donc, par rapport à ça, le but, ce n'est pas de chercher la gratitude, pour gagner des années de vie, mais on va chercher à aller vers ça, vers la vraie joie. Et cette vraie joie, elle est liée à la gratitude. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, cette disposition de cœur, cette reconnaissance, cette gratitude, elle n'est pas naturelle là en nous. C'est plutôt la gratitude, souvent, qui est présente dans nos cœurs. On pense que tout nous est un peu dû et on aime se plaindre. Là. On est français en plus, on aime se plaindre quand on n'a pas ce qu'on veut. On voit parfois de l'ingratitude chez nos enfants. Ça fait 2 heures qu'un parent se démène, qui prépare un bon repas. On le sert à notre enfant qui dit « Berk, c'est pas bon !» Je suis sûr que vous avez déjà eu droit à ça. Bon, voilà. Vous n'êtes pas les seuls si c'est le cas. Mais ça, c'est la disposition naturelle de nos enfants. Et souvent, mais vous savez quoi, on leur enseigne la même chose dans d'autres circonstances. Où nous-mêmes, on leur montre l'exemple de gens ingrats, de gens frustrés, de gens qui se plaignent, plutôt que de gens qui rendent grâce et qui manifestent de la gratitude. Alors, un peu comme hier, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sur ce chemin de la joie et de la gratitude ? Je vous donne quelques points, je vais essayer d'être concret. Et la première chose, c'est écarter. Écarter. Écarter, en fait, ce qui peut contrarier cette gratitude et cette joie. Écarter les regrets. Vous avez cette voix, peut-être dans la tête, parfois, qui est là, qui vous dit « si j'avais pas fait ça » ou si j'avais fait ça. Mais arriver à écarter ces regrets qui sont là, c'est des regrets en fait, ils nous tournent vers le passé, ils nous momifient même dans le passé, c'est des regrets qu'on peut avoir. Et se rappeler d'une chose, c'est que le passé dans la parole de Dieu, il est à la miséricorde. Le Seigneur le couvre de sa miséricorde. On vit des choses, parfois dans nos vies, et puis plus vous avancez, plus on vit des choses, et parfois on se rend compte que le plus dur, finalement, ce n'est pas que Dieu nous pardonne, c'est qu'on se pardonne, parfois, à nous-mêmes. Mais je crois que, justement, c'est dans ce pardon que Dieu nous offre, qu'on peut se pardonner à soi-même, et qu'on peut arriver à écarter les regrets. Écarter les regrets, mais aussi, quelque chose qui me paraît important d'écarter, c'est écarter la comparaison. Écarter la comparaison. On a tous des insécurités ici. On a tous des envies de gloire qui sont issues de nos blessures, ou de nos mauvaises images qu'on a de nous-mêmes. Et ça, c'est une réalité humaine que Dieu connaît intimement, il nous connaît intimement. Et la solution humaine à ça, souvent, c'est quoi ? C'est on se compare aux autres. Et on se dit, ça va, par rapport à elle ou à lui, je ne suis pas si mauvais, je suis assez meilleur même. Ou alors au contraire, aïe aïe aïe, par rapport à lui, par rapport à elle, je me sens inférieur. Mais ça, vraiment, c'est une solution qui est excessivement mauvaise. La comparaison, c'est un fléau psychologique et relationnel. C'est vraiment un fléau. Ça conduit certains à se dévaluer constamment. Et ça en conduit d'autres à vivre une vie de substitution. On est là à convoiter ce que d'autres ont et qui ne sont pas à nous, mais qu'on cherche à convoiter et à avoir. Et ça conduit tout le monde à ne pas s'aimer les uns les autres. Ça crée ça, la comparaison. Et la comparaison, c'est vraiment cette tristesse qui fait que je ne reconnais pas ce que je suis, qui ne reconnaît pas ce que j'ai. C'est un ennemi vraiment de la joie et de la gratitude. Et elle est à écarter. Et j'insiste un peu sur ça. Ça paraît peut-être un peu simple ce que je vous dis, écartez ça. Mais vraiment, on a un travail de renouvellement dans nos pensées à faire. Et c'est à nous de le faire, avec l'aide du Seigneur, hein, bien sûr. Mais c'est à nous de le faire. C'est nous qui sommes responsables de ça. Je crois que le Seigneur, hein, avec sa parole, il nous aide à démasquer parfois des mensonges, des fausses croyances qui sont là. Parce que parfois, vous savez, on laisse tout rentrer. Hein, il y a nos pensées qui sont là et on laisse tout rentrer. On ne met pas de tri, pas de filtre. On accepte tout, on prend tout dans la face. Mais on a un tri à faire. Il y a vraiment un filtre à mettre. Et vous savez, quand on débusse des pensées qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, il y en a qui vont sortir et il y en a d'autres qui vont vous dire « Non, 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 je reste. Je reste parce que ça fait longtemps que je suis là et elle ne va pas sortir facilement. Hein » ça fait longtemps qu'elle est là, elle s'est installée, elle a refait le salon, elle a mis le canapé, elle s'est installée. Et ça va être compliqué de la faire sortir. Elles n'ont pas l'intention de partir. Elles sont là depuis un moment. Mais on a laissé des pensées parfois qui sont là, qui squattent en fait et qui détruisent nos vies. Et peut-être même, hein, alors que je parle, il y a peut-être des choses qui font écho, des pensées qui vous viennent là dans la tête, qui remontent à la surface. Peut-être le Saint-Esprit est en train de faire des choses, d'en mettre à la lumière certaines pensées. Mais vraiment, faisons le tri. Faisons le tri à la lumière de la parole de Dieu. Il peut y avoir des pensées squatteuses qui sont là et il faut les faire partir. Donc la comparaison, les regrets, notamment les regrets si on est passé par un processus de repentance, hein, et ben voilà, ces choses-là sont à la miséricorde du Seigneur. On peut les écarter. Donc écarter, mais ça ne suffit pas, hein. Il faut aussi reconnaître, s'exercer à reconnaître. Ça c'est un exercice aussi, ça c'est quelque chose qui vient petit à petit. Donc une histoire que Pascal Hyde raconte dans son livre, il dit en 2001, il est invité à prêcher sur l'île de Tahiti. Bon, plutôt sympa, hein. Il dit qu'il n'hésite pas trop longtemps avant d'y aller. Et après sa semaine de prédication, on lui offre même de passer quelques jours à Bora Bora, juste au nord-ouest de Tahiti. Donc il raconte simplement ce qu'il a vécu de cette expérience. Certains sont déjà allés à Bora Bora ? Ok, c'est pas mon cas, mais de ce qu'il dit, ça donne envie. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Aujourd'hui encore, je garde en mémoire chaque heure passée à courser une remanta, à donner à manger aux douces raies se faufilant à travers les algues avec une incroyable adresse, à nager parmi les requins à pointe noire. » Et quand les requins à pointe noire, alors je connais pas l'espèce, j'espère qu'elle n'est pas trop dangereuse. Et quand le soir, j'ai célébré la messe dans ces églises polynésiennes dont les murs ajourés... Oui, il est catholique. Hein. J'ai célébré la messe dans des églises polynésiennes dont les murs ajourés laissent passer la fraîcheur du jour. Les paroles, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Ces paroles ont pris soudain un sens très singulier. Devant mes yeux dansaient les algues multicolores du jardin de coraux, l'azur somptueux du lagon féerique. Je louais alors Dieu de toute la magnificence de l'univers, tandis qu'avec l'Assemblée, nous chantions les paroles « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ». Le lendemain, je demandais à un habitant du Pacifique ce qu'il éprouvait à se lever tous les matins face à cette perle du Pacifique Sud. Il a haussé les épaules et m'a répondu « Vous savez, je suis né ici, je suis habitué ». Sa réponse me stupéfia. Voilà ce que dit Pascal Hyde. Mais la réalité, c'est qu'on a la capacité à s'habituer à tout. Même au cadeau le plus merveilleux. On se lasse vite hein, de ce qu'on a. Mais la gratitude, ce n'est jamais une question de don. C'est toujours une question en fait, de regard qu'on pose sur le don. Vous savez, il y a toujours ces slogans dans nos sociétés. Vous le valez bien. Obtenez ce que vous méritez. Mais vraiment, on est bombardé de messages de ce style qui font que tous les dons qu'on reçoit, on a du mal à ne pas les voir comme des dus. Parce que oui, après tout, est-ce que je ne le vaux pas ? Est-ce que je ne le mérite pas ? Mais simplement, voilà ce que la Bible dit de nous quand même, juste en Genèse, Genèse 2, verset 7, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et juste après la chute, Genèse 3, 17, Dieu dit à Adam, le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque tu as été tiré de celle-ci, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais est-ce que nous réalisons, les amis, que c'est de là qu'on vient ? On vient de là et à cause de notre péché, c'est ça qu'on mérite. Le salaire, notre salaire, le salaire du péché, c'est ça, c'est retour à la terre. c'est retour à la terre. C'est de là qu'on vient. Et c'est de là qu'on va retourner. Et je ne sais pas si, vous savez, mais en latin, donc le mot humus, je ne parle pas de la purée de pois chiches, mais le mot humus, ça veut dire sol, terre. Et c'est de ce mot-là aussi qu'est venu le mot humilité. Et quand on a une position d'humilité, qu'on se met au niveau de ce que la parole nous donne, comme Jésus qui a pris cette position d'humilité, vous savez, c'est beaucoup plus naturel de regarder vers le haut, comme ça, de voir, et de voir les choses sous un autre angle, avec une perspective qui est différente. Parce qu'il y a différentes façons de voir les choses. Face à une opération chirurgicale, hein, on peut dire, mais Seigneur, comment il y a cette maladie qui est là, et la vie, elle n'est pas juste. Et ça peut être douloureux, mais il y a une deuxième façon aussi de voir les choses. C'est de dire, quelque part, je ne mérite rien. Le salaire de mon péché, c'est la mort, et pourtant, je suis en vie. Et en plus, il y a un médecin qui me dit qu'il a un plan, qu'il a les traitements qu'il me faut pour guérir. Et ça, c'est la grâce. Et la question, en fait, c'est quel regard on pose sur les choses et qu'est-ce qu'on pense aussi qu'on mérite. Et je pense que quand on a un regard un petit peu plus lucide ou un petit peu plus biblique, on se rend compte qu'il y a tellement de choses autour de nous qui sont des cadeaux. On se rend compte qu'on devrait être mort pour nos péchés. C'est ça notre salaire, c'est ça notre mérite. Qu'on ne mérite même pas le souffle de Dieu qui est là. Mais pourtant notre cœur, il est là et il bat. Il bat plus de 100 000 fois par jour. Plus de 100 000 fois par jour. Et à chaque fois qu'il bat, il y a ça, il y a cadeau, 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 cadeau. 100 000 fois par jour. La vie est un cadeau, les amis. Profitons-en. Et vous savez quoi ? Dieu n'est pas juste avec nous. Il n'est pas juste avec nous parce qu'il nous donne, il ne nous donne pas ce qu'on mérite en fait, hein. Il nous donne ce que Jésus-Christ mérite. Il nous donne la vie. Et la vie en abondance. Donc on puisse s'exercer à reconnaître, peut-être de cette position d'humilité, et de reconnaître ce qu'on reçoit. Prenons le temps parfois de nous arrêter. On a nos vies qui sont là à 100 000 à l'heure. On prend, on consomme, on avance, on continue. Prenons le temps peut-être juste de nous arrêter, hein, de contempler, de discerner dans les dons que je reçois, derrière les choses ou les personnes qui m'entourent, il y a le Seigneur qui est là. Il y a le Seigneur qui est là. Et ça m'aide aussi à ne pas m'habituer. Et à éprouver de la gratitude. Donc, ça va, écarter, reconnaître, et j'avance, ressentir. Ressentir. C'est important de prendre le temps aussi de ressentir, ok ? Prendre le temps de goûter la paix et la joie que le don éveille en moi. Parfois, on mange des repas, devant bah, parfois l'écran, la vidéo YouTube, du coup on n'est même pas conscient de ce qu'on mange, hein. On mange. Pourquoi pas prendre le temps d'apprécier des aliments, hein, de les déguster tranquillement. Et pour ressentir la gratitude, je vous encourage à détailler le don que vous avez reçu, de pouvoir décrire en détail le don que vous avez reçu, se laisser imprégner en fait par ça, sentir cette joie que ça nous donne. On passe tellement d'une chose à une autre, on fait plein de choses, on a plein de boulot, parfois juste on termine notre travail. Ressentir cette joie-là, de se dire « j'ai bien travaillé aujourd'hui, merci Seigneur, j'ai été efficace, j'ai été productive », avoir ressentir cette joie-là. Et quand on regarde dans la Bible, hein, c'est intéressant parce que le peuple de Dieu n'a de cesse de détailler les dons de Dieu. Hein. En un seul exemple, Éphésiens 1, Paul, il rend grâce, il loue Dieu, mais il ne le fait pas dans le vide, hein. Il réfléchit aux raisons qui poussent l'homme à adorer. Et alors il nous fait une prière, voilà, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction spirituelle. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, puisqu'il nous a aimés, et il continue, il prend le temps de détailler, il prend le temps de reconnaître qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Prendre ce temps-là. Et pourquoi pas, si vous le souhaitez, débuter la rédaction d'un journal de gratitude, où au quotidien, je prends le temps de noter une chose. Une chose dans ma journée où je suis reconnaissant pour celle-ci. Et je fais remonter ça à Dieu en action de grâce. Et quand on fait ça, petit à petit, la vertu de gratitude, elle s'installe dans nos vies. Moi, ça fait 6 mois que je fais ça, et je vois que petit à petit, cet exercice qui est quotidien me transforme, me change. J'ai plus de capacité, de facilité à reconnaître la bonté du Seigneur, à reconnaître les dons qui sont là, et à ouvrir les yeux sur ce qui est bon. Pascal Hitch, je vous donne encore cet exemple-là. Il donne l'exemple d'une femme qui habitait dans un immeuble, 5e étage, sans ascenseur, en plein Paris. une femme assez âgée, et c'était lourd pour elle. Mais elle a fait tout un parcours en fait, hein, sur la gratitude. Et puis à un moment donné, elle dit, c'est vrai, oui, j'habite au 5e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Mais elle dit, c'est précieux en fait, parce que je me rends compte que j'entends moins de bruit, surtout j'ai plus de lumière, et puis en plus je vois la basilique Montmartre de ma fenêtre. Alors ça n'empêche pas que quand elle arrive en haut de chez elle, elle est essoufflée, il n'y a pas d'ascenseur, hein, il n'y en a toujours pas. Mais elle a découvert aussi ce qui était bon, et qu'elle n'aurait pas vécu, par exemple, si elle avait vécu au rez-de-chaussée, hein, ou au premier étage. Et là encore, les amis, souvent nos réalités sont là. Elles ne changent pas forcément, mais il y a un changement de regard que nous, on peut poser sur la réalité. Il y a vraiment un changement de regard. Quelle perspective on a ? Un mot aussi peut-être pour ceux qui sont dans des périodes d'épreuve. Un mot sur la gratitude quand on passe par un temps d'épreuve. Un témoignage que donne un évêque du Vietnam en 75, Monseigneur Van Thuan, il a écrit un livre. En fait, quelques mois après avoir été nommé évêque, il y a le régime communiste qui est arrivé. Hein. Il a été incarcéré, il va rester en prison pendant 13 années. 13 années sans jamais être jugé, sans jamais être condamné. Et il raconte en fait qu'il se trouve dans cette prison de Phu Khan, dans une cellule sans fenêtre, où il fait très chaud, il suffoque. Il sent qu'il perd sa lucidité peu à peu. Et dans le noir, il dit « J'ai vu un trou au bas du mur, je passe ainsi plus de 100 jours par terre en glissant le nez dans ce trou pour respirer. Quand il pleut, le niveau de l'eau monte et de petits insectes, des grenouilles, des vers de terre, des mille pattes montent dans ma cellule. Je les laisse entrer, je n'ai plus la force de les faire partir. » Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Choisir Dieu et non les œuvres de Dieu. Je suis conscient que Dieu me veut ici et pas ailleurs. » Je crois que c'est des paroles de vie, ça. Choisir Dieu et non les œuvres de Dieu. Dieu veut que je vive la vie qu'il a prévue pour moi, avec ma taille, avec mon physique, avec mon histoire, et pas ailleurs, là où je la vis, pas une autre vie. Et il continue, il dit, quand les communistes m'embarquent au fond du navire avec 1500 autres prisonniers que nous sommes déportés vers le nord, en voyant le désespoir, la haine, le désir de vengeance sur le visage des détenus, je partage leur souffrance, mais tout de suite la même voix m'interpelle. Choisis Dieu et non les œuvres de Dieu. Et je me dis, c'est vraiment ici, Seigneur, qu'est ma cathédrale. C'est ici qu'est le peuple de Dieu que tu m'as donné, afin que j'en prenne soin. Je dois assurer la présence de Dieu au milieu de mes frères, désespérés et malheureux. C'est ta volonté, c'est donc mon choix. Et cette attitude que je trouve assez remarquable, elle se fonde en fait sur cette certitude de la présence de Dieu, de la présence totale de Dieu à chaque instant de notre existence. Dieu me veut ici et non ailleurs. Et en accueillant ce donateur, finalement, il est en mesure de pouvoir accueillir sa situation, de vivre dans l'instant et dans le lieu que Dieu lui donne et où il veut se donner à lui. Donc, ça, c'était mon quatrième point. Je termine et puis on va regarder une petite vidéo. Donc, pour avancer vers la joie et la gratitude, écarter, reconnaître, ressentir, dans l'épreuve, garder son focus sur Dieu, hein, plus que sur les œuvres de Dieu, plus que sur ce qu'on traverse. Et un dernier point, donc, c'est agir. Agir. Et ça, c'est la question finalement qui nous reste. C'est qu'est-ce qu'on laisse jaillir en fait en nous ? Qu'est-ce qu'on laisse jaillir comme réponse à tout ce qu'on a reçu ? Quels actes on va poser en réponse à ce que j'ai reçu ? En sachant, on l'a chanté ce matin, le Fils de Dieu est venu, il nous a fait ce don inouï. Il nous a tant aimés qu'il s'est donné. Et il l'a fait gratuitement, il l'a fait sans arrière-pensée, sans chercher son intérêt. Le faire n'allait pas le rendre plus heureux. Il était déjà le Dieu bienheureux de toute éternité. Mais l'apôtre Paul nous dit, le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré pour moi. Galates 2:20. Le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré pour moi. On aurait été les seuls pécheurs sur la terre. J'aurais été le seul pécheur sur la terre. Jésus serait venu pour me sauver. Alors, moi, quelle réponse je vais donner à ce don qui est là, qui est totalement gratuit ? Donc, je vais finir ce message en vous montrant une vidéo. Tu peux la lancer, c'est une vidéo en fait, qui nous donne un exemple qui, je pense, nous incite à notre tour à donner et donc aussi à être transformé. Donc je vous laisse la découvrir et on en reparle après. Peut-être vous l'avez déjà vue. Oui, donc c'est une pub pour une compagnie d'assurance thaïlandaise. Voilà, vous pouvez oublier la fin si vous voulez. Mais je l'apprécie. Cette pub, parce que je pense qu'elle illustre plusieurs choses hein, sur la dynamique de gratitude. On voit cet homme qui effectue des dons de manière désintéressée. Il exige aucun retour pourtant, c'est ce qui va lui arriver, c'est ce qui va se passer. Hein. Après avoir été incompris, même il est un peu méprisé hein, dans la vidéo. Il va recevoir des remerciements en boucle, même des services en cascade à la fin de la vidéo. Et il en retire de la joie, il en retire du bonheur. Et plus que ça, hein, si vous avez remarqué, la gratitude est présentée vraiment comme un acte qui transforme les différents acteurs de la publicité. Pas juste lui, il y a une transformation des uns et des autres. Et je crois aussi hein, qu'on pourrait se demander, où est-ce que cet homme il trouve les ressources ? Enfin, ça paraît fou. Où est-ce qu'il trouve les ressources pour donner gratuitement, comme il fait, sans jamais se lasser, sans jamais exiger ? On le voit constamment en train d'agir, en train de donner. Mais il me semble qu'il y a un moment aussi, on le voit recevoir. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. À un moment donné, il est à genoux, il est en train de prier. Et là, il est en train de recevoir. Il reçoit gratuitement de Dieu hein, cet amour. Et c'est pour ça qu'il peut donner gratuitement aux autres en retour. Et, ben, et ça, ça nous rappelle bien sûr ce que Jésus dit en Matthieu 10. Hein, vous avez reçu gratuitement. Donnez. Gratuitement, donné gratuitement. Donc pour conclure, est-ce que je peux demander à l'équipe de louanges de me rejoindre, peut-être de jouer un instrumental derrière moi, si c'est possible. Mais pour conclure, j'aimerais vous laisser six étapes, les six étapes vers la gratitude et la joie. Donc c'est Pascal Hyde qui les décrit à sa manière, de façon assez concrète dans son livre. Je vous les mets ici, je vous laisse les prendre éventuellement en photo, si vous voulez, ou en notes. Mais voilà, il dit être dans cette attitude où on reconnaît les bienfaits qui nous sont donnés. Hein, une parole, un geste, la beauté d'un paysage. Voilà, un bienfait que vous avez reçu aujourd'hui. Puis prendre conscience de sa gratuité. On reçoit ce bienfait sans obligation de retour. Détailler ce don gratuit. Prendre le temps d'écrire quelques caractéristiques de ce don. Goûter la paix et la joie que cette description du don éveille en nous. Sentez en nous monter le désir de faire le même et décider de poser cet acte comme une libre et gratuite voilà, réponse d'amour. Donc voilà, ces étapes-là, je vous invite à pas juste les prendre en note ou en photo, mais qu'on puisse aussi les mettre en pratique dans nos vies. Et ça a une possibilité vraiment de nous changer, de nous transformer. C'était ça que j'avais à cœur ce week-end de vous transmettre. C'est vraiment que l'amour, hein, la joie, la gratitude, la reconnaissance, que ces choses-là, elles circulent en fait. Un peu comme dans ce cycle qui est là. Ah, zut. Tu peux me le remettre, s'il te plaît. Je me suis planté. Ouais, c'est bon, merci, super. Un peu comme dans ce cycle qui est là. Hein. Je sais pas, c'était l'image que j'avais à cette fin de prédication, qui est une circulation qui soit là entre le Seigneur et nous, de cet amour, de cette joie, de cette gratitude. Et peut-être que le Saint-Esprit vienne fluidifier ce cycle aussi, hein, un peu, vous savez, comme quand il vient huiler des rouages qui peuvent peut-être être un peu rouillés. Mais qu'on puisse dire une année où ce cycle finalement il se met, où il se remet en place avec cet amour qui est là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre un temps, je vois que c'est déjà 35, mais peut-être un chant de louange. Je peux laisser l'équipe chanter, louer, prendre un chant. Et puis après, j'aimerais qu'on prenne peut-être le temps de prier par rapport à ça. De prier.